Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors cette usine est déjà sortie de terre, hein. Elle est déjà sur nos deux communes respectives que sont Douvrin et Billy-Berclau, avec une production de batteries que nous espérons, en tout cas ce qui a été annoncé pour la fin d'année 2023.
En mai 2023, la France a inauguré sa première gigafactory de batteries dans le nord de la France, des batteries pour voitures électriques. C'est dans ce domaine que se jouera à l'avenir la grande bataille de l'automobile. La batterie remplaçant peu à peu le moteur à combustion, c'est dans ce domaine qu'un groupe français espère bien se distinguer. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Retrouvez-nous tous les soirs à 17h sur leséchos.fr et sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Ici, vous pensez qu'on va fabriquer des batteries? Eh bien, pas seulement. Parce qu'ici, on fabrique l'avenir, on fabrique de la confiance et on fabrique de l'optimisme.
Avenir, confiance et optimisme. Les mots choisis par Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France en novembre dernier, lors de la pose de la première pierre de l'usine de batteries électriques Vercors. C'est le site du port de Dunkerque qui a été retenu par cette jeune entreprise française aux ambitions carnavalesques. Bonjour Adrien Lelièvre.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste au service start-up des Échos. Pour commencer, qui est Vercors ?
Alors Vercors, c'est une start-up française spécialisée dans la fabrication de batteries électriques et c'est un des joyaux de la French Tech.
Pourquoi a-t-elle choisi le site du port de Dunkerque dans les Hauts-de-France alors que cette entreprise est née à Grenoble ?
Alors c'est vrai qu'elle est née à Grenoble où elle a un centre d'innovation dernier cri, mais elle avait besoin de beaucoup de mètres carrés tout simplement pour se lancer dans la production de batteries à grande échelle. Et elle a choisi Dunkerque parce que le site répondait, je cite, à toutes les exigences d'une gigafactory en termes de terrain, de logistique, de capacité énergétique, de proximité des clients et d'accès à une main-d'œuvre. Et avant de trouver la perle rare, Vercors a étudié une quarantaine de dossiers, y compris des dossiers à l'étranger. Elle a prospecté, par exemple, en Espagne ou en Italie. Et c'est finalement Dunkerque qui a su se montrer le plus persuasif. Et il faut aussi comprendre que la région d'Hauts-de-France est en train de dérouler le tapis rouge aux fabricants de batteries, puisque, outre Vercors, il y a Prolegium, ACC, Envision, ou alors des acteurs du recyclage comme Battery, avec un I, qui arrivent aussi dans les parages.
Combien ça coûte de construire une telle usine et comment Vercors, hein, qui est une entreprise jeune, vous le disiez, va-t-elle financer cet investissement ?
Alors, on sait que c'est astronomique, mais on ne sait pas précisément combien va coûter le site de Dunkerque. Mais en tout cas, pour le financer, effectivement, Vercors a réuni récemment 2 milliards de financement, dont 850 millions en equity. Le reste, ce sont des prêts bancaires et des subventions. Et pour donner simplement un ordre d'idée, hein, la French Tech, en 2023, a levé plus de 8 milliards d'euros. Donc à elle seule, en fait, la start-up Vercors a réuni 10% de ce montant.
Donc un montant important, une grosse levée de fonds. Mais si je m'abuse, ça fait de Vercors une licorne ?
Ça fait de Vercors une licorne, même si c'est nous qui l'avons découvert, puisque Vercors n'avait jamais communiqué sur le sujet. C'était un secret très bien gardé jusque-là.
Pourquoi ne veulent-ils pas communiquer sur ce sujet ?
Alors déjà, en soi, on peut dire que ce n'est pas totalement surprenant que Vercors soit une licorne, compte tenu des montants qu'elle a levés auprès des investisseurs. Mais ce qui est surprenant, effectivement, c'est qu'elle n'ait pas revendiqué ce statut. Et dans sa com, la boîte met plutôt en avant la dimension industrielle de son projet et ses retombées écologiques plutôt positives, puisqu'une fine, ça permettra demain à ses batteries de décarboner la mobilité. ça s'inscrit plus globalement dans un contexte où les licornes sont un petit peu moins à la fête, si j'ose dire, parce que beaucoup de licornes ont vu le jour, tout secteur confondu, ces dernières années, alors que l'argent coulait à flot, hein, vraiment, dans la tech. Sauf que certaines licornes avaient parfois des valorisations un peu stratosphériques et totalement décorrélées des revenus qu'elles étaient capables de générer. Donc, pour des raisons plutôt de prudence, si j'ose dire, Vercor a choisi de ne pas mettre l'accent sur le sujet. Et puis, plus globalement, je pense que ça reflète aussi la personnalité des fondateurs. Ce sont des ingénieurs plutôt humbles et qui savent que le projet, même s'il a déjà fait du chemin, est encore au tout début. Et donc, en fait, ils ne voulaient pas forcément, entre guillemets, fanfaronner en disant « nous sommes des licornes ». Et puis, par ailleurs, il faut comprendre que la valorisation, c'est un indicateur financier parmi d'autres. On est licorne à un instant T, mais on peut perdre ce statut en cours de route, hein, ça arrive. Et aujourd'hui, en fait, on met aussi beaucoup plus l'accent dans la tech sur la rentabilité ou sur la croissance qui est plus saine. Et ça, je trouve que c'est révélateur du contexte qui est un peu plus compliqué aujourd'hui dans la tech qu'il n'était il y a 2 ou 3 ans où c'était un peu la fête, si j'ose dire.
Ils n'ont pas besoin du côté bling-bling de la licorne et les profils qu'ils recrutent sont moins sensibles à ce tampon. C'est l'explication que vous a donnée un de vos contacts ?
Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est un indicateur parmi d'autres et je pense que les fondateurs se disent on est encore au début de l'aventure, on a une usine qu'on doit construire. Pour l'instant, les travaux sont en cours, donc l'usine n'a même pas encore vu le jour. Une fois qu'elle verra le jour, il faudra qu'elle commence à produire. Il faudra ensuite que les volumes de production augmentent. Donc, il reste du chemin et un peu de prudence et un peu de modestie, ça peut ne pas faire de mal parfois dans la French Tech.
Arrête de clapper, t'es dans MySpace. Je t'ai vu en vrai, t'es moche comme mes fesses.
Ah, c'est pour rire, hein, c'est pas un message personnel, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire avant de fabriquer de la batterie en batterie. L'entreprise est jeune, elle a été créée en 2020 et les ambitions, on le disait, sont énormes. Mais le groupe peut s'appuyer sur le soutien de l'État. Emmanuel Macron a ainsi posté un message sur LinkedIn lors de cette levée de fonds. 2 milliards d'euros pour l'usine de batterie électrique de Vercor à Dunkerque, avec le soutien de France 2030 et de l'Union européenne. C'est un nouveau record pour une start-up française. La France attire, se réindustrialise, décarbone son économie, crée des emplois. Mais Adrien, au-delà de ce satisfecit politique, le groupe peut aussi compter sur ses actionnaires. Qui sont-ils ?
Alors, la liste est très, très, très longue et ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs sont assez différents. Il y a des fonds de capital risque traditionnels, si je veux dire, comme BPI France, qui est un des premiers investisseurs de Vercor. Il y a des corporates comme Renault, qui a investi très tôt dans l'aventure Vercor et qui est plus qu'un investisseur, hein, c'est un futur partenaire commercial pour Vercor. Hein. Très concrètement, Vercor va lui fournir des batteries pour ses véhicules. Et il y a après des fonds dits d'infrastructure tels que Meridiam ou Macari qui investissent très très peu en fait dans les startups. Ce sont des fonds non pas de capital risque mais des fonds d'infra, donc des fonds qui ont des poches très très profondes et qui sont capables d'accompagner les startups vraiment sur le long terme. Très concrètement, ce sont pas des fonds qui s'attendent à faire une sortie dans 2 ou 3 ans parce que de toute façon ce serait pas possible, mais qui pourront peut-être accompagner Vercor lors des prochains tours de table et jusqu'à une potentielle introduction en bourse dans 5 ou 10 ans si on se projette un peu plus sur le moyen voire le long terme.
Ouais, ça c'est intéressant parce que ce sont effectivement des fonds qui ont beaucoup d'argent et qui sont habitués à accompagner les entreprises sur la durée. Quand vous dites d'infrastructure, ils vont construire des ponts, des aéroports ou des choses comme ça. Hein.
C'est ça. Et ces fonds s'intéressent de plus en plus à des sociétés, par exemple, dans la recharge électrique ou dans les batteries électriques, parce que c'est le futur, finalement, de nos infrastructures. On avait besoin de construire des réseaux de télécoms dans le passé. On avait besoin de construire des réseaux de renouvelables, par exemple, pour produire de l'énergie. L'avenir, c'est décarboner la mobilité, par exemple, et ça passe par des batteries, des infrastructures de recharge, etc.
Oh, elle est jolie comme un cœur.
Vos majestés,
nous les fées dans ce berceau offrons à cette belle enfant chacune un don.
Vercor est bien né et bien accompagné avec plusieurs fées qui se sont penchées sur son berceau. Mais qui se cache derrière ce projet de gigafactory français sur un marché dominé par les Asiatiques ? Il y a 2 ans, Pierre de Gasquet était allé à leur rencontre pour un article dans les Echo Weekend. À l'époque, on se demandait si l'on était face à une future licorne ou face à un pari fou. Pierre, on commence à avoir un début de réponse.
Oui, tout à fait. Pierrick Vercor devient un acteur très significatif de la French Tech. Donc, on l'a vu avec cette levée de fonds. Il faut se souvenir que, historiquement, la société naît en plein confinement, hein, dans une période compliquée, en 2020. Et le pari, c'était de créer un champion français des batteries. Hein. C'est un pari crucial pour toute l'industrie automobile européenne. Et donc, dès l'automne 2018, Benoît Lemaignan, donc un des principaux cofondateurs, s'est lancé dans l'aventure en croisant la route du fabricant suédois Northvolt, qui est un peu son modèle. Et il est persuadé qu'il va falloir compenser la baisse des emplois dans le monde des moteurs thermiques. Et donc, il se lance en 2020 avec 5 autres cofondateurs, en misant d'ailleurs sur un modèle original de gestion très collective. Et l'objectif est de construire une des 3 grandes gigafactories de batteries en France, avec celle du géant sino-japonais Envision à Douai et celle de Stellantis à Douvrin, dans le Pas-de-Calais.
Hey, 2020, on va le rappeler, hein, on est alors en plein confinement. Ça rend ce projet encore plus incroyable, hein, de vouloir produire assez vite des batteries dans ce qu'on appelle la vallée de la batterie dans le nord de la France. Pierre, vous avez rencontré les fondateurs à Grenoble pour les éco-weekends, et notamment Benoît Lemaignan. Qui est-il ? Qui sont les fondateurs de cette entreprise ?
Alors oui, c'est un modèle assez original d'ailleurs, parce que c'est un modèle de gestion très collectif avec 6 cofondateurs, hein, qui sont tous environ entre 40 et 60 ans et qui sont passés soit par Airbus, Renault, Tesla, Audi, à des niveaux de responsabilité assez élevés. Donc, il y a Benoît Lemaignan, qui est le cofondateur et président. Et il y a aussi Christophe Mille, Sylvain Pénaud, Philippe Chin. Et ils ont tous pour point commun d'avoir donc travaillé dans des grandes entreprises du secteur, soit aéronautique, soit de l'automobile. Alors, en particulier, Benoît Lemaignan vient de l'aéronautique. C'est un ingénieur aéronautique qui est passé par Meridian aussi et Vaga Energy, une start-up qui était dans le biométhane. Et il a croisé la route de Jean-Marc Jancovici, le pionnier de la lutte contre le réchauffement et l'inventeur du bilan carbone. Mais son vrai mentor, c'est surtout l'économiste Alain Grandjean, qui est le cofondateur de Carbone 4 avec Jean-Marc Jancovici.
Carbone 4, on va le rappeler, c'est ce cabinet de conseil qui accompagne les organisations, les entreprises sur le chemin de la décarbonation pour qu'elles s'adaptent au changement climatique et pour qu'elles œuvrent aussi à la restauration de la biodiversité. Benoît Lemaignan vous a d'ailleurs confié, il y a 3 ans, avoir quitté l'aéronautique car il trouvait que le secteur, à l'époque, n'intégrait pas assez les changements climatiques comme un élément de son radar stratégique. On le voit, il a une démarche militante dans le sillage de son mentor. Mais il a aussi, vous le disiez, un modèle venu de Suède.
Oui, tout à fait. Le modèle d'inspiration, c'est le Suédois Northvolt, qui est vraiment le pionnier des batteries électriques en Europe, même si la démarche de Vercors est encore plus originale, puisqu'elle s'accompagne d'une exigence sur l'empreinte carbone de la batterie. Donc, les fondateurs veulent assurer que la production soit la plus locale possible pour pouvoir satisfaire aux enjeux environnementaux. C'est aussi le cas de Northvolt, donc la Suède et la France bénéficiant d'une électricité très peu carbonée. Ça donne un avantage sur les autres pays européens pour la construction des gigafactories. C'est du moins le point de vue de Gilles Moreau, le Chief Innovation Officer de Vercors.
On est dans le circuit court, mais ce qui est important aussi, vous le racontez hein, dans cet article hein, qui date d'il y a quelques années déjà, ils veulent miser aussi sur une bonne durée de vie des batteries ?
Oui, ce sont plutôt des batteries haut de gamme, ce sont des batteries lithium-ion, donc qui sont appelées effectivement à avoir une durée de vie supérieure à celle, par exemple, des batteries chinoises. Oui.
Pourquoi ce nom Vercors ?
En fait, les fondateurs voulaient un nom porteur de sens. Comme ils sont basés à Grenoble, ils se sont inspirés du massif du Vercors. c'est-à-dire un lieu de ressourcement et de résistance, comme on le sait, hein, pendant la guerre. Et donc, c'est tout de suite devenu une marque assez forte. Et eux-mêmes ont été assez surpris par l'impact de cette marque, qui évoque aussi évidemment le nom de l'écrivain Vercors. Donc, c'est un nom qui leur convenait tout à fait pour une jeune société grenobloise.
Caché dans les contreforts, la rivière, la faune et la flore, façonne un décor qui te fera perdre le nord.
Le Vercors, hommage à ce coin de nature par Théo Didier. Et Vercors entend bien gagner le Nord avec cette gigafactory en cours de construction, on va y revenir. Pierre, le succès de Vercors est suivi de près par le gouvernement, mais aussi par l'Élysée. C'est aussi un enjeu de souveraineté nationale ?
Oui, bien sûr. Donc pour l'Élysée et pour le gouvernement, c'est certainement un enjeu majeur. On sait que les Chinois sont très présents dans ce secteur. Et d'ailleurs, l'Élysée a salué la levée de fonds de Vercors réalisée en septembre 2023, qui est une levée de fonds très importante dans la French Tech, puisque c'est 2 milliards d'euros. Macron lui-même a fait un tweet sur cette levée de fonds. Comme je le disais, c'est la plus importante levée de fonds de la French Tech. Et à cette occasion, le fonds australien Macquarie et Meridiam sont devenus des investisseurs importants, plus la présence du fonds stratégique de participation et l'entrée de l'armateur français CMA-CGM dans le capital.
Adrien, je reviens vers vous. Vercors a obtenu les financements, on en parlait, hein, 2 milliards d'euros. Le projet est en bonne marche. Quand la Gigafactory Vercors sera-t-elle construite et opérationnelle surtout ?
Alors, elle est en cours de construction et elle sera opérationnelle, si tout se passe bien, d'ici 2025, avec une capacité de production initiale de 16 gigawatts par an. Et il faut savoir que la production va monter en puissance progressivement. Et au départ, le projet va créer 1200 emplois directs et 3000 emplois indirects dans la région de Dunkerque, qui historiquement est une région qui a plutôt souffert de la désindustrialisation. Donc c'est intéressant pour les Hauts-de-France de se positionner sur la question des batteries, parce que ça participe plus globalement à la politique de réindustrialisation de territoires qui ont souffert dans le passé.
Quelles sont les ambitions du groupe en termes de fabrication cette fois ?
L'idée, c'est vraiment de fabriquer des batteries bas carbone et d'être capable aussi potentiellement de les recycler. Et puis plus globalement, l'idée, c'est de servir des clients tels que Renault, qui sont arrivés très tôt, si j'ose dire, dans la voiture Vercors et qui veulent avoir des relations très très étroites avec cette start-up. Mais l'idée, c'est de desservir tout type de clients et d'être un des géants européens de la batterie.
Pierre Degasquet, pour terminer avec vous, Vercors a remporté un premier pari, celui de l'accès au capital, mais il reste encore des défis. L'un d'eux sera notamment de gérer l'accès aux matériaux nécessaires pour fabriquer ces batteries. C'est un défi quand on est une jeune entreprise ?
Oui, tout à fait, parce que on sait que ces batteries qui utilisent la technologie lithium-ion sont gourmandes en matières premières critiques, qui sont donc le cuivre, le nickel, le lithium. Et donc, Vercors a dû négocier des accords avec les producteurs de ces métaux rares, Imerys, Eramet. Mais sur ce point, il y a eu une évolution récente, c'est que la tension sur les prix des métaux rares s'est inversée. En fait, le prix du lithium, par exemple, a beaucoup baissé. Il est passé de 60 000 euros la tonne en 2022 à 12 000 euros aujourd'hui, en raison du déstockage de la Chine. Alors sur ce front, il y a une accalmie. En revanche, sur le nickel, c'est un peu plus compliqué. Il y a des problèmes liés à la Russie et à la crise en Ukraine.
Pierre, pour le besoin de ce podcast, vous avez recontacté Benoît Lemaignan, que vous aviez rencontré donc il y a 2-3 ans. Quel regard il porte sur ce qui s'est passé ces années et sur les défis qu'il reste justement à l'avenir ? Il est plutôt confiant ?
Oui, alors je lui ai parlé hier et il est plutôt confiant, surtout sur la filière électrique, parce qu'évidemment, on a encore, comme vous le savez, des doutes sur le ralentissement, cette espèce d'entre-deux où les consommateurs hésitent encore. Lui est vraiment convaincu qu'avec les premiers véhicules qu'on voit arriver cette année, notamment la R5 de Renault, qui est un partenaire stratégique de Vercors, on est dans un moment vraiment de décollage et que les modèles à 20-25 000 euros de voitures comme la R5 vont vraiment doper le marché à partir de 2025. Même si Vercors n'est pas présent, je tiens à le préciser, sur la R5, mais sur des véhicules plus haut de gamme comme la gamme alpine de Renault.
À terme, l'usine Vercors permettra d'équiper 300 000 véhicules électriques par an, dont une grande partie ira donc pour son partenaire et actionnaire Renault. Le premier modèle à être équipé des nouvelles batteries sera le futur crossover électrique d'Alpine qui sera assemblé à Dieppe et qui sera lancé dans 2 ans. D'ici là, Vercors devra aussi trouver et former la main-d'œuvre. L'entreprise a d'ailleurs ouvert il y a moins de 2 ans une école avec 11 partenaires. Objectif, diplômer à terme 1600 étudiants par an au sein de 70 formations, du CAP au doctorat. Merci Pierre de Gasquet, enquêteur aux Échos Weekend, et merci Adrien Lelièvre du service Startup des Échos. Et pour suivre toute l'actualité des jeunes pousses, abonnez-vous à la newsletter Startup des Échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.